Je remercie tous ceux qui prient pour celui qui prépare les prédications, parce que c'est une lourde charge que de parler à des personnes qui s'attendent à recevoir quelque chose du Seigneur, à entendre quelque chose du Seigneur. Et dans la préparation, je prie pour tous ceux qui seront là, parce que je ne sais pas qui sera là chaque fois. Et je prie aussi pour ceux qui écoutent nos enregistrements sur l'Internet. Hein. Il y a des gens qui écoutent régulièrement aussi et qui, donc, nous pensons à eux aussi. J'ai remarqué que dans l'un des cantiques, je crois que c'était le 341, celui que je connaissais pas, mais il terminait avec cette pensée: si tu veux marcher avec lui dans le ciel, il faut commencer à marcher avec lui sur la terre. Il y en a qui l'oublient. Et justement, le sujet de notre méditation ce matin, c'est parler le parler ou marcher la marche. Beaucoup parlent la vie chrétienne, le parler du Christ, mais est-ce que tout cela marche la marche de Christ? Donc, chacun est interpellé. Parler le parler ou marcher la marche. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans la première épître de Jean. Et au chapitre 1, nous allons lire les versets 5 à 10. Donc 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 10. L'Église de Jésus-Christ, depuis sa conception, a toujours souffert de ces gens qui déclarent appartenir à Christ et qui ont appris la culture de chrétienne, qui ont appris le langage chrétien, qui ont appris les réponses chrétiennes, mais qui malheureusement ne le confirment pas dans leur vie. C'est-à-dire, leur vie ne déclare pas leur appartenance. Si il fallait seulement les observer pour décider s'ils étaient chrétiens, ce serait difficile à déterminer. Je me demande si vous deviez passer en justice parce que vous êtes chrétien, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour vous condamner? 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et là, nous allons trouver une série de trois. Si nous disons, trois fois il y aura les si nous disons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Jésus-Christ nous avait déjà averti qu'il y aurait de ces gens qui seraient parmi nous, parmi les croyants, mais qui vraiment, en réalité, ne lui appartiennent pas. Et si nous soulevons le sujet, ce n'est pas pour chasser ceux qui ne lui appartiennent pas, c'est pour, comme il a été dit tout à l'heure, c'est pour vous inviter à venir. Pas seulement à faire partie de ce groupe qui se réunit le dimanche, mais de vraiment faire partie du corps de Christ. Mais Jésus avait dit, il a dit, « Oh, il y aura de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur !» Mais il a dit, « Mais tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Parce que pour ceux qui ne sont pas à lui, qui disent seulement « Seigneur, Seigneur » mais qui ne font pas sa volonté, eh bien, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, ils diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas? Et puis, ils parleront des choses qu'ils ont fait en son nom. Il a dit, mais vous avez utilisé mon nom, mais vous ne me connaissez pas. Il y avait, dans les Actes des Apôtres, il y avait des gens qui avaient essayé d'utiliser le nom de Jésus pour chasser un démon. Ça s'est mal terminé pour eux. N'invoquons pas le nom du Seigneur si nous ne le connaissons pas. Il vaut mieux pas courir le risque. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous rappelle le message de l'Évangile qui consiste en le fait que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous dites, mais je connais ça. C'est très bien. Heureux êtes-vous si vous connaissez cela. Et encore plus heureux si vous le croyez. Mais beaucoup semblent avoir compris pardon éternel au lieu de vie éternelle. Certains ont l'impression de la manière dont ils se comportent, de la manière dont ils vivent, c'est qu'ils disent, ben, je crois, j'ai le pardon de mes péchés, je suis tranquille, c'est réglé, je continue ma vie, et le jour où j'en aurai besoin, je sortirai la carte et je dirai, Seigneur, tu sais, j'ai prié pour toi, j'ai prié une fois, et donc tu dois me laisser rentrer. Et ce genre d'attitude, ça fait des drôles de chrétiens. C'est-à-dire des gens qui portent le nom de chrétien. Quand il dit ce quiconque croit a la vie éternelle, ça ne veut pas dire pardon éternel, ça veut, bien que ce soit inclus, ça ne veut pas dire existence éternelle, même si c'est inclus, mais c'est le mot vie éternelle. Vous savez, la vie, ça se vit. Et quand la vie ne se vit pas, c'est la mort. Et quand il dit « vous aurez la vie éternelle », ça veut dire que c'est une vie nouvelle qui commence. Et il emploie et dit « celui qui croit a la vie ». Et pas qu'il aura la vie, il l'a. À l'instant même où je reconnais que j'ai péché, je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, pas seulement pour les péchés, mais pour mes péchés, et je place confiance en lui, à cet instant même je reçois la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle se vit. L'apôtre Jean, dans cette épître, associe le mot vie éternelle avec communion avec Dieu. Hein, vous lisez ce chapitre, si vous le lisez, vous allez voir. Vie éternelle égale communion avec Dieu. Ça va ensemble, c'est naturel. On peut pas, c'est anormal de concevoir avoir la vie éternelle et ne pas être en communion avec Dieu. C'est deux choses qui vont ensemble. C'est une aberration quand ça n'existe pas. C'est que certainement que la vie éternelle n'est pas là. Le roi Saül, qui avait bien commencé, qui avait été oint par Samuel, le juge et prophète en Israël. Dieu l'avait béni. Mais un jour, il revient d'une mission que Dieu l'avait envoyée. Et puis, il voit Samuel qui arrive et il s'écrie « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel, 1 Samuel 15-13. Il dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la volonté de l'Éternel. Et la réalité, lorsque nous lisons l'histoire, c'est pas du tout vrai. Il n'avait pas obéi, et finalement, ce jour-là, c'était le début de la fin pour Saül. Parce que c'est même ce jour-là que Samuel va lui dire, Dieu t'a rejeté, il a choisi un autre meilleur que toi. Pourquoi? Eh bien, il y avait cette attitude qui s'est développée en lui. Il a commencé à prétendre, à déclarer être ce qu'il n'était pas. Et dans ce premier chapitre de 1 Jean, justement, il est en train de traiter ce problème. Et il parle de ces gens qui font des déclarations. Il parle de verset 6, il parle de « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres », il dit ça va pas. Il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché », et puis il va continuer la suite. Où il dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché ». Il dit là, nous sommes en train de faire des déclarations qui sont en aucun cas vraies, ne peuvent pas être vraies. Et il s'adresse à des chrétiens, des gens dans une communauté. Prenons la première, celui qui marche dans les ténèbres. C'est-à-dire celui qui dit être en communion avec Dieu et qui marche dans les ténèbres. Au verset 5, il y a une règle qui a été posée. Il dit, nous vous annonçons que c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, on aurait dit, mais ça suffit, hein, c'est pas la peine d'ajouter qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il dit, non, pour que ça soit clair. Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune ombre. Il n'est pas de la lumière, il n'y a pas de la lumière en lui, il est lumière, et il n'y a pas d'ombre. Et si, et puisque cela est vrai, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est pas possible. Vous avez déjà vu cohabiter la lumière et les ténèbres ? L'un chasse l'autre. Il dit... Celui qui dit qu'il est en communion avec Dieu et qui marche dans les ténèbres, il dit c'est pas possible. Pourtant, il y en a beaucoup qui essayent de le faire. Quand il parle des ténèbres, bien sûr, c'est pas l'absence de lumière au sens naturel, mais c'est les ténèbres, c'est le monde du péché, le monde qui est associé au péché, Et donc, il dit, on ne peut pas marcher dans la lumière de Dieu, être en communion avec Dieu, dans sa lumière, et en même temps marcher dans la lumière, dans les ténèbres du monde. Et il ajoute dans ce passage, il dit, si nous prétendons cela, eh bien, nous mentons. Il dit, c'est un mensonge. C'est pas une question qu'on se trompe, on ment carrément. C'est délibéré. On est responsable. Il dit, celui qui prétend cela, c'est un menteur. Et bien sûr, un menteur, il dit, il ajoute la vérité, il ne pratique pas la vérité. Jésus avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous êtes en communion avec moi, si vous m'aimez, hein, être en communion, on peut pas être en communion. Vous avez déjà rentré dans une maison, et puis à peine arrivé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein, il y a toutes les politesses qu'il faut, mais vous avez comme un sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette maison. Alors, les gens, ils se disent des politesses, des choses gentilles, mais vous sentez qu'il n'y a pas cette ambiance d'amour. Il dit, tu peux pas. Il y a contradiction. S'il n'y a pas communion avec Dieu et marcher dans les ténèbres, c'est pas possible. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous êtes à moi, si vous m'appartenez, eh bien, vous gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu, justement, c'est le contraire de marcher dans les ténèbres. C'est marcher dans la lumière. C'est marcher dans la volonté de Dieu. Celui qui marche dans la lumière est en communion avec Dieu. Et il nous dit au verset 7, cette communion, elle est mutuelle. Verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, lui il est déjà. C'est nous qui entrons dans cette lumière. Donc si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est-à-dire, ça va dans les deux sens, c'est mutuel. C'est j'apporte et je reçois. Il reçoit et il m'apporte. Nous sommes mutuellement en communion. Et il ajoute, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Dans ce contexte-là, lorsque nous sommes dans la lumière, lorsque nous sommes en communion mutuelle avec Dieu, il dit dans cette circonstance-là, le sang de Christ est agissant et il nous purifie de tout péché. Il est là et purifie, c'est pas... Il y a des gens qui ont dit l'idée que le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, eh bien, le sang de Christ a pardonné mon péché, et puis après, c'est terminé, c'est réglé, et puis après ça, on n'en parle plus. Si, ça a réglé ce moment-là. Mais maintenant que je suis en communion avec, je marche avec le Seigneur, bien sûr, il y a pas l'un d'entre nous, et s'il le pense, j'espère d'ici la fin de l'heure, il n'y pensera plus, mais nous péchons. Et nous avons besoin d'être purifiés. Je vous rappelle Jésus-Christ dans la chambre haute. Jésus a fait quelque chose d'un peu particulier, surtout la veille de sa crucifixion. C'est un peu bizarre que Jésus ait fait cela, mais il le trouvait nécessaire et c'était une vérité qu'il devait transmettre à ses disciples. C'est que, vous vous souvenez, il s'est levé et puis il a commencé à laver les pieds des disciples. Et Pierre, qui est toujours celui qui parle le premier... Heureusement, c'est-à-dire, moi je critique pas, parce que heureusement qu'il a dit des bêtises, parce qu'on a eu des réponses à certaines choses. Il a dit, mais Jésus, jamais tu me laveras les pieds. Jamais. Bon, moi je laverai pas les pieds de personne d'autre non plus, hein. Parce qu'il aurait pu, non, Pierre aurait pu se lever et dire, non, Seigneur, c'est moi qui vais le faire, je vais laver les pieds. Non, il s'est pas levé. Il a dit, personne me lavera les pieds. Jésus lui dit, écoute, si je te lave pas les pieds, tu n'as aucune part à mon royaume. C'est-à-dire, tu ne fais pas partie de mon équipe. Ah, si c'est comme ça, alors fais-moi, lave-moi entièrement. La tête, les pieds, tout. Et ce que répond Jésus, c'est très important. Il dit non, non. Ceux qui ont été lavés une fois n'ont besoin que seulement qu'on les lave les pieds. Parce que si tu as déjà eu le bain, hein, le contexte de l'époque, vous avez les bains publics. Alors les gens vont là-bas pour prendre le bain. Ils sortent du bain public, ils sont propres, mais bien sûr, il faut marcher dans le chemin pour arriver à la maison. Qu'est-ce qui se salit ? Les pieds seulement. Et donc, on rentre à la maison, on lave les pieds, et puis on retrouve sa propreté. Jésus dit, c'est la même chose. Ceux qui ont été baignés une fois sont propres. Mais vous savez, vous êtes, avant d'arriver dans la gloire céleste, vous êtes en train de circuler dans ce monde, et il y a des saletés qui se collent à vous au passage. Eh bien, ces choses-là doivent être lavées régulièrement. Vous savez, vous ne pouvez pas vous empêcher dans votre marche de tous les jours d'entendre des choses, même si vos oreilles ne sont pas des poubelles. Vous pouvez pas vous empêcher que vos yeux voient des choses, même si vous n'avez pas envie de les voir. Les choses sont là. Et chaque fois que ça passe, hein, quand quelque chose nous touche, ça salit quand même. Faut pas prétendre que ça vous touche pas. Dis-moi, ça m'affecte pas. Je vois passer une dame qui a pas grand chose, ça me touche pas. Tu es menteur. Et peu importe ton âge. Mais, si je suis en communion avec le Seigneur, si j'ai pensée de Dieu qui me préoccupe, si j'exprime mes problèmes, au Seigneur, je suis en communion avec lui. Il dit, là, Jésus, il dit, je suis en train de laver tes pieds tout le temps. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie constamment. C'est du présent. Nous purifie de tout péché. Et nous avons besoin de cette pureté. On ne peut pas négliger et rentrer avec les pieds sales. Si j'arrivais directement du champ, de la randonnée, et puis je rentre à la maison, puis je commence à circuler dans la maison, ma femme va me dire, oh là là là, retourne là-bas, ou bien va directement en bas, puis tu nettoies. Ça c'est pour la maison, mais pour notre marche quotidienne aussi. On dit, celui qui marche dans la lumière, et pour marcher dans la lumière, il faut être en communion avec le Père. Eh bien, celui-là, eh bien, jouit non seulement de la communion mutuelle, celle à laquelle Dieu nous a prévu, hein, c'est ça qu'il voulait quand il a créé l'homme. Et, mais en plus, le sang de Jésus son Fils nous purifie constamment de tout péché. Dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18, je voudrais vous lire, Dieu exprime sa volonté pour nous à travers de la bouche de Paul. Dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18, voilà un résumé du plan de Dieu. Si vous avez l'idée que Dieu est là uniquement pour pardonner les péchés, vous n'avez rien compris. Parce qu'il a pardonné les péchés en vue d'eux. Parce que l'obstacle était le péché. Donc il a réglé l'obstacle, maintenant il a envie de faire quelque chose. Il veut réaliser une chose. Donc, acte 26, verset 17, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, voilà, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et remarquez que c'est clair, il dit qu'il passe des ténèbres à la lumière. Et l'équivalent, c'est de Satan à Dieu. Et là, le pardon des péchés, le pardon du moment du salut, bien sûr, mais après il y a le pardon des péchés tout le long de notre vie chrétienne, on en a besoin. Et il nous prépare pour l'héritage avec les sanctifiés. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. D'abord à nous-mêmes, et puis on ment aux autres, mais les autres finissent par ne plus croire. Et si c'est à la maison, eh bien les enfants ils voient clair, madame voit clair, monsieur voit clair, les enfants voient clair avant les autres. On peut tromper beaucoup de monde pendant longtemps, mais on ne trompe pas tout le monde tout le temps. Le premier, c'était si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, mais que nous marchons dans les ténèbres, dit un menteur. Et donc, je ne suis pas en communion avec Dieu, donc le sang de Christ ne me purifie pas de tout péché, constamment. Donc, ça commence à s'accumuler. Et alors, on commence à avoir des chrétiens qui sentent mauvais. Parce qu'ils s'emportent, parce qu'ils commencent à se comporter. Et ils arrivent même à tellement sentir mauvais qu'ils commencent à sentir comme le monde. Mais qui disent encore, je suis chrétien, je me rappelle, il y a 25 ans, là, je me rappelle, j'étais rentré dans une église et j'ai prié. Et c'est tout ce que tu as fait avec Dieu depuis. Eh ben, c'est pas étonnant que tu sentes comme ça. Alors que la Bible nous parle de ce besoin d'être purifié constamment par le sang de Christ. Ensuite, au verset 8, il y a un deuxième « si nous disons ». Il dit « si nous disons que nous n'avons pas de péché ». Nous nous séduisons nous-mêmes. Les premiers philosophes du christianisme étaient des gnostiques. Les gnostiques avaient cette idée que le matériel était souillé, mais que le spirituel, c'est-à-dire la partie de l'être humain, tout ce qui est invisible, est pur. Ce qui est matériel est souillé, et ce qui est spirituel de l'esprit, de l'âme, est pur. Bon, ce qui a entraîné pas mal d'idées, qui affectent même certains mouvements religieux aujourd'hui. Par exemple, certains qui interdisent que les hommes marient des épouses, des femmes. Pourquoi ? Parce que ça, c'est du matériel, ça, c'est sale. Hein, il n'y a que le spirituel. Tu consacres ta vie uniquement à la prière, à ceci et cela. Donc, c'est des restes, hein, c'est des idées qui sont encore là, mais qui sont fausses. Et alors, il y avait ces gens qui avaient cette idée-là, Alors, comme le péché se faisait dans le corps, mais que eux, ils étaient spirituels, donc il dit, nous n'avons pas de péché, parce que nous sommes spirituels. Et même si ils avaient un certain raisonnement, qui suivait une certaine logique, le problème, c'est qu'ils avaient tort. Hein, c'était faux quand même. Vous savez, vous pouvez être sincère et avoir complètement tort. Combien de fois, moi, je croyais que j'allais dans la bonne direction avec la voiture et je me retrouve complètement à côté. La sincérité ne suffit pas. Hein? Et il faut l'admettre si on s'est trompé, si on a tort. La question, ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il nous dit, nous devons sanctifier l'être tout entier, corps, âme et esprit. Et Christ dit, moi, je veux le corps, l'âme et l'esprit, l'homme tout entier. Et quand j'ai payé le prix sur la croix, j'ai payé pour avoir l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Et supposons que l'un de nous, dans la foi, qui sommes dans la foi, mourons, immédiatement notre esprit, notre âme se rend auprès de Dieu, mais le corps est respectueusement mis en terre. Mais Jésus se souviendra et dit, mais moi quand j'ai acheté, c'est l'être tout entier. Et il reviendra un jour chercher ce corps, le ressusciter, réunir l'être tout entier. Pour lui, il a payé pour l'être tout entier. Pour lui, c'est important. Et donc, il encourage la sanctification de l'être tout entier, corps, âme et esprit. Oui, j'aime Dieu dans mon cœur, mais après ça, à part ça, je fais ce que j'ai envie. Tu n'as rien compris au message. Jésus a dit dans Marc 12, 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, le corps avec. Tu aimeras le Seigneur de tout ton être. Alors, le verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, donc c'est celui qui ne dit pas, moi je n'ai pas de problème de péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarquez qu'il y a le mot pardonner et il y a le mot purifier. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent avec le concept de pardonner. Je confesse mon péché, il me pardonne. C'est bon, c'est réglé. Je lisais dernièrement à Gao, au Mali, certains hommes se sont fait couper les mains et les pieds. Et puis on leur a dit, maintenant, le péché est expié. Tu n'as plus de péché, maintenant tu pourras entrer au ciel sans problème. Bon, l'idée, elle a été prise de Jésus, qui dit que si ta main ou ton pied ou ton œil est un problème, coupe-le. Mais ce n'était pas dans ce sens-là. Deuxièmement, ce n'est pas en sacrifiant une main ou un pied qu'on obtient le pardon de nos péchés. C'est le sang de Christ seulement. Mais il parle de pardon des péchés, mais ensuite de la purification. Et ça va ensemble. Et certains chrétiens croient, ben moi j'ai dit, le Seigneur il pardonne, il est généreux, il se lasse pas de pardonner, il pardonne comme les hommes ne pardonnent pas, et puis toutes les belles choses comme ça. Mais à partir du moment que je tronque la vérité, que je ne prends qu'une partie, tout est faux. Il dit, il pardonne, mais en vue de purifier. Et purifier, finalement, le fait que la vie soit purifiée, que l'être humain soit purifié, que ses pensées soient purifiées, que sa vie soit purifiée, confirme le fait que ses péchés sont pardonnés. Celui qui a un cœur pur, des pensées pures, eh bien, ça constatera. Les autres le verront. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, si les poubelles, quand vous les achetez, elles sentent pas mauvais, Donc si par la suite elles sentent mauvais, ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'il y a dedans. Et si ça vous plaît pas ce qui sort de votre bouche, et ce que, c'est que dedans il y a un problème. L'apôtre Jean est catégorique. Celui qui prétend ne pas être coupable de péché, il se séduit lui-même. Il est son propre séducteur. Celui-là, le diable, il va mettre le diable au chômage. Il se trompe lui-même. Et il dit, et la vérité n'a aucune place chez lui. La vérité, c'est qui? Jésus a dit, je suis la vérité. Dans sa prière de Jean 17, Jésus a dit, ta parole est la vérité. Donc il dit, celui-là, la vérité n'est point en lui. Il n'a pas compris le message de l'évangile, il n'a pas entendu la parole de Dieu, elle n'a aucun effet sur sa pensée, alors il dit des bêtises. Celui qui dit, j'ai pas de péché, je suis coupable de rien, il dit, il ne connaît pas la vérité, il n'a pas entendu la parole de Dieu. Peut-être qu'il est à l'église, et peut-être qu'il chante bien, peut-être qu'il parle bien, peut-être qu'il arrive à composer de belles prières. Il y a des bons compositeurs. Mais je me souviens une fois, j'étais encore à l'impasse Charles, il y avait un Polonais. Ah, son français, c'était de quoi créer de gros problèmes à l'Académie française, c'est sûr. Mais bon, son français, c'était du quelque, n'importe quoi, hein, il avait appris ça à l'usine. Mais quand il priait, on avait les larmes aux yeux. Parce qu'on savait que ça venait de quelque part. Qu'il avait une relation. C'était pas du français, mais c'était de la communion avec Dieu. Et c'est ce qu'on recherche. C'est ce qui plaît à Dieu. Et ça s'entend. Hein. Il y a un moment où on faisait plus attention à son français, parce qu'on voulait rentrer dans cette prière à lui. Celui qui dit qu'il n'a aucun péché, moi je ne me reproche rien du tout, eh bien, celui-là n'a pas la vérité. Si l'apôtre Paul dit « De tous les pécheurs, moi je suis le plus grand », alors moi je ne sais pas où me mettre. Hein? Parce que lui a pu dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Et moi je ne suis pas encore capable de dire cela. Et ensuite, verset 10, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons. Non, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. » Alors là, il y a une autre catégorie de personnes. Vous savez, si vous voulez arriver au point où vous ne péchez plus, eh bien, il suffit de changer toutes les lois. Vous voulez plus jamais enfreindre le code de la route, vous enlevez tous les panneaux, vous enlevez les limites de vitesse. Vous avez tout ça et tout d'un coup vous avez l'impression que non, moi je fais rien de mal. C'est un peu ce que notre société est en train de faire pour beaucoup de choses de vérité morale. Hein, tout d'un coup on dit mais ça c'est pas interdit, ça c'est pas interdit, vous pouvez être infidèle, vous pouvez vous marier avec qui vous voulez. Bien sûr que la loi, l'État peut décider que un chien peut se marier avec un chat, mais est-ce que c'est ce que Dieu a voulu? Vous savez, on peut changer les règles morales, mais vous savez, ça ne change pas la justice de Dieu. Et donc, c'est pas, vous dites, mais c'est permis. Et alors, c'est permis. Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que dit la Bible? Bien sûr que vous pouvez changer les choses. Et dire, après, moi, je me sens plus coupable, hein. Moi, ça me dérange pas. Je fais ceci, je fais cela. Oui, tout le monde le fait. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Et si, bien sûr, si je lis pas la Bible, si je regarde la télé au lieu de lire ma Bible, bien sûr, j'ai pas la pensée de Dieu. Et petit à petit, je commence à penser comme la télé. Si on avait la visite de Martien, dans notre société. Puis ils venaient circuler et regarder dans les maisons comme ça. Vous savez quelles impressions ils auraient ? Que les habitants de la France adorent les télés. Parce que dans chaque maison, ils trouvent toutes les chaises arrangées comme ça, vers la télé. C'est le centre. Ils disent, ouais, on dirait que ils font ça, c'est le centre, hein, c'est là. C'est leur temple, et puis là, c'est leur dieu. Hein. Puis ils allument, ils l'éteignent comme ils veulent. Bon, j'exagère un peu, mais est-ce que c'est devenu la chose principale dans notre vie ? Hein ? Je règle ma vie en fonction du 20h ? Ou est-ce que moi, je décide ? 20h, ça ne convient pas, mais vous voulez voir les informations ? Ben, allez sur Internet, vous pouvez voir le 20h à 21h. Mais c'est vous qui décidez. C'est pas lui qui décide. J'ai dit d'abord, j'ai pas encore lu ma Bible aujourd'hui. Ce matin, je me suis levé en vitesse, je suis parti, j'ai pas encore lu ma Bible. Ah bon, tant pis, 20h, le 20h, il passera. Moi, je lis ma Bible. Puis après, si vraiment il y a des choses, des informations que je veux avoir, je prends l'Internet, je l'allume, et je trouve, et puis je suis pas obligé d'écouter toute la demi-heure, je peux écouter juste la chose qui m'intéresse. Ça prend 5 minutes. Et je dors, je m'endors à la même heure. J'ai rien perdu. En fait, j'ai tout gagné. Vous savez, en tant que chrétien, Dieu est un Dieu créateur. Créatif, il pense, il arrive à trouver les moyens de régler les problèmes. Et ses enfants devraient avoir la même imagination. L'imagination, c'est pas uniquement pour les pécheurs, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu nous a créés, ça fait partie de ce que Dieu a mis en nous, l'imagination, la capacité de penser, de trouver des solutions. Hein, on fait pas ce que font les autres, ça c'est pour les moutons, hein, c'est pas pour les êtres humains. Dans tous les cas, on peut refaire les lois pour se donner l'impression que on est dans les normes et que tout va bien et on n'a pas péché. Mais à la fin, il faudra aller voir Dieu. Et c'est lui qui décidera. Alors il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Il dit la première chose. On est en train de déclarer que Dieu est menteur, alors que la réalité, c'est que c'est Satan, le père du mensonge. Et quand on dit père du mensonge, ça veut dire que c'est lui le premier qui ait jamais menti. Et puis, si je lis la suite, donc le début du chapitre 2, hein, dans l'esprit de la lettre, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas au verset 10. Il dit, donc, à la lumière de tout cela, il ajoute, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc, s'il dit « J'écris pour que vous ne péchiez point », c'est que vous êtes capable de pécher. Hein? Vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Le mot avocat ici, c'est le même mot qui a été traduit par consolateur dans l'évangile de Jean. C'est parakletos, c'est celui qui se tient près de nous. Un avocat, c'est celui qui se tient près de moi pour me défendre. Eh bien, il nous dit, Jésus-Christ aussi, c'est notre avocat qui se tient près de nous et qui nous défend. Et lorsque nous avons péché, eh bien, il dit, mais moi, s'il y a un jugement qui est porté contre ce que j'ai fait, il dit, mais moi, j'ai payé. Et différemment des avocats d'aujourd'hui, c'est nous qui les payons. Ici, Jésus, c'est lui qui paye. Hein, c'est nous les coupables et c'est lui qui paye. Il dit, nous avons un avocat auprès du Père. Ah, ça c'est important. Il est bien placé. Hein. Il n'est pas dans un champ quelque part. Non, il est là, devant celui à qui on doit rendre des comptes. Quand il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, il savait de quoi il parlait. Il dit, oui, sur terre, là, je peux vous guérir, je peux vous soigner, je peux vous tenir compagnie et tout ça. Mais il a dit, il vous est avantageux. Moi, je connais vos faiblesses. Il vous est avantageux que je sois près du Père, assis près de lui, que je vous défende, que je sois votre avocat. Et tout le temps. Non seulement il y a le diable, l'accusateur qui se présente là-bas, mais en plus, vous avez besoin de quelqu'un qui vous défende. Il vous est avantageux que je sois. Je vous laisse. Et alors, il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous avons un seul, gloire à Dieu. On en a un, on n'a pas besoin de 36. Vous n'avez pas besoin de faire appel à tous les saints et puis tous les autres. Et si Jésus fait bien le travail, pourquoi aller ailleurs? Après tout, ces gens qu'on appelle saints, ils ont fait appel à qui? À Jésus. Et si on leur posait la question, ces saints, on leur disait, à qui as-tu été toi pour obtenir pardon de tes péchés? Ils auraient dit, à Jésus, hein, allez, vas-y. Alors pourquoi aller les voir eux? Et il dit, il est lui-même une victime expiatoire, et certains d'entre vous avez le mot propitiatoire, et les deux sont vrais, hein, parce que le mot grec, là, il peut se traduire dans les deux sens, et finalement, les deux sens sont vrais. Il est expiatoire, il a payé pour le péché, propitiatoire, il est là pour apaiser Dieu, rendre propice. Et donc, il a le double rôle, il est là, il est là et je suis là pour vos péchés. Alors c'est pas la peine d'aller essayer de changer les lois, essayer d'expliquer les choses et tout ça, faire des excuses. Il dit non, si vous avez péché, je suis là, je le règle. N'essayez pas de tromper ni quelqu'un d'autre, ni vous-même, ni rien du tout. Confessez votre péché, venez me voir, on va régler ça parce que j'ai déjà payé. Et il dit non seulement est-ce qu'il est victime expiatoire pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Il dit, vous savez, le premier qui a cru qu'on avait un problème de péché, c'est Jésus-Christ. Parce que s'il n'était pas sûr qu'on était pécheur, ou s'il y avait un cas où on n'était pas pécheur, une possibilité où on n'était pas pécheur, alors pourquoi aller mourir sur une croix? S'il a été mourir sur la croix, c'est parce qu'il était convaincu qu'on avait un gros problème. Grand remède veut dire grave maladie. Il a enduré la croix. Et puis ensuite, il savait que notre problème, le péché, nous crée un problème avec le Père. Donc c'est pour ça qu'il s'est placé près du Père, pour intercéder en notre faveur. Et il est mort pour obtenir le pardon de nos péchés et pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, que nous puissions la vivre, que nous puissions notre être tout entier puisse être purifié par son sang, lavé par sa parole, et que nous puissions vivre pour lui. La question c'est maintenant ce matin. Où, vous êtes où? Vous dites, mais moi je crois. Peu importe ce que tu crois, qu'est-ce que Dieu dit? Et ce que Dieu dit, il est important que tu places confiance en ce qu'il a dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. La foi ne vient pas par ailleurs. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Il n'y a pas un autre moyen. La foi vient seulement si on entend. Et ceux qui refusent ce qu'ils entendent, eh bien, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 1 et au verset 20, ils sont donc inexcusables. Et ne soyons pas, quand Dieu offre le salut gratuit, quand il dit, celui qui croit a la vie éternelle, quand Dieu offre le salut à tous les hommes, c'est sincère. Il ne fait pas semblant de l'offrir à tout le monde et puis c'est finalement, en fait, c'est réservé pour quelques-uns. C'est sincère. Dieu est un Dieu sincère. Et il offre le salut à tous les hommes. Et on acquiert cela par la foi. La foi, c'est lorsque j'entends une parole, je la crois. Et j'ai la capacité de croire. Chacun a la capacité de croire. Il n'en faut pas beaucoup. Comme il y a quelques dimanches là, le pasteur Cole nous avait rappelé cet homme qui vient à Jésus et sa prière c'est Dieu, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus a entendu. Même une prière pareille. Il dit mais je crois, mais dans ma tête j'ai plein de problèmes. Il dit bon, moi tu dis vrai, viens. Et nous pouvons avoir cette vie nouvelle. Elle est gratuite. Il l'offre à tous, mais il faut la recevoir. Et Donc ne soyons pas de ces personnes qui déclarent une chose, qui déclarent avoir quelque chose spirituel, alors qu'ils ne l'ont pas. Parce que c'est eux les premiers perdants. Ce que vous voulez, c'est la vérité pour vous. La question, c'est, est-ce que vous avez la vie éternelle ? Deuxièmement, que vous l'avez, eh bien, vivez-la. Pas seulement avoir le parler, mais avoir la marche. La marche, si vous regardez dans 1 Jean chapitre 3, ce serait l'équivalent de celui qui pratique. Hein, marcher, c'est pratiquer la vie de Dieu. Hein, si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3, vous allez trouver plusieurs fois celui qui pratique ou celui qui ne pratique pas. Eh bien, c'est ça, c'est cette notion-là de marcher, de pratiquer la vie nouvelle. Et où vous l'avez ou vous l'avez pas, cette vie nouvelle? Si vous l'avez, faut la pratiquer, faut marcher cette marche. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème. Vous dites, mais bon, j'ai l'impression d'avoir été hypocrite là pendant quelque temps. C'est pas grave. Dieu sauve les hypocrites aussi. Hein. Matthieu, l'évangéliste, était un publicain. Il avait son problème. L'apôtre Paul était un pharisien. Il avait un problème d'hypocrisie. Dieu a sauvé l'un et l'autre. Et tous les deux sont devenus utiles. Alors ne soyons pas comme Saül, qui a prédit une chose de sa bouche, qui a fait semblant de se repentir, mais c'était pas sincère, eh bien c'était la fin. Pour lui, ça donnait rien du tout. Sa fille a terminé en échec. Et on a affaire avec le même Dieu aujourd'hui. Un Dieu plein de grâce. Mais il y a des règles. Sa justice n'a pas changé. Hein? Mais il nous aide. Ça a été lu tout à l'heure. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Pourquoi? Parce que je le porte avec vous. Alors, tout est là. Mais il faut porter son joug, marcher avec lui. Que le Seigneur nous aide à pas seulement parler le parler, mais marcher la marche. Et si vous avez... Dites, mais bon, combien de fois je suis tombé? J'ai essayé de marcher, je suis tombé. Écoutez, si vous voyez quelqu'un qui marche, c'est parce qu'il s'est relevé la dernière fois qu'il est tombé. Donc peu importe, regarde personne combien de fois vous êtes tombé. La question c'est que le Seigneur est là pour nous relever. Si on tend sa main, il nous prend, il nous relève. Il n'achève pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Peu importe votre état. Moi j'ai déjà assez vu avec le Seigneur et j'ai vu faire assez de choses. Je dis écoutez, peu importe qui vous êtes, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre arrière-plan. Venez à Jésus sérieusement pour vivre cette vie nouvelle et il vous la fera vivre et pleinement. Prions. Père Céleste, encore une fois, quelle joie, quel privilège d'avoir entendu ces paroles. Tout le monde n'a pas entendu ce matin. Certains n'étaient pas au bon endroit. Certains n'écoutent pas là où ils devraient écouter. Mais Seigneur, nous avons entendu. Nous sommes responsables. C'est à nous d'agir. Tu sais comment nous vivons. Tu sais ce que nous doit être notre vie. Et Seigneur, le dimanche matin, nous avons tous l'apparence d'être des saints. Mais toi, tu sais ce que nous vivons toute la semaine. Tu sais ce que la famille vit à la maison. Tu sais ce que voient les voisins. Et puis après tout, c'est pas ce que eux pensent, c'est ce que toi tu penses qui importe. Parce que c'est toi qui auras le dernier mot. Tu veux sauver. Tu ne veux pas condamner. C'est pour ça que Christ est mort. Ton Fils est mort sur la croix. C'est pour pouvoir pardonner. Mais aussi pour donner une vie à vivre. Seigneur, que ces pensées restent avec nous. Que Satan ne vienne pas enlever ses pensées. Mais que Seigneur, elles puissent tomber dans et porter du bon fruit à ta gloire. Seigneur, chacun se trouve dans une situation différente. Chacun se trouve à un stade différent. Tu as parlé à chacun de manière différente, donc nous allons nous accorder quelques moments et que ton esprit puisse agir individuellement avec chacun et que s'élèvent de cette assemblée des prières et des pensées qui te sont agréables. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen.